Il y a un cher confrère, il y a un cher fidèle. Il me revient de clôturer ce temps de carême par cette prédication sur Saint-Louis et le sacrifice, le thème que j'ai choisi. C'est Joinville, sénéchal de Champagne, qui est le meilleur chroniqueur de la vie de Saint-Louis. Peggy dira même que le livre de Joinville est comme un évangile du royaume de France. Un évangile. Jean de Joinville serait donc à Saint-Louis ce que Saint-Jean fut à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vu et rend témoignage, et son témoignage est vrai. Et c'est qu'il vivrait, afin que vous aussi vous croyiez. Il voit le fait, Saint-Jean. Il voit la chose. Il voit la réalité avec ses couleurs, son atmosphère, sa présence, l'expression des visages, les âmes transparentes sur la physionomie. Saint-Jean se sait appelé par le maître, sans doute comme apôtre, mais certainement comme témoin. Il sait qu'il voit ce que tous les yeux voudraient voir, qu'il entend ce que toutes les oreilles n'entendront que par lui. Il porte sa vocation de témoin, d'historien sans gêne et sans contrainte dans l'action et sur la pêche du lac de Tibériade, dans les marches, les miracles, les fatigues et les jours de la vie, les terreurs de la mort, il observe. Et il conserve dans son cœur. Saint Jean n'est pas un historien en quête de renseignements. Non. Il est, pourrait-on dire, oculaire. Il voit et il vit ce qu'il est chargé de dire. Il juge et il adore le Saint des Saints. Il juge dans la conquête, dans la complète liberté. Il a plaisir à dire, entre parenthèses, son appréciation personnelle. On ne leur fait pas à croire. Le génie qu'il habite est difficile et critique. Souvenez-vous de l'intense et malicieux récit de la guérison de l'aveugle né que l'Église lui donnait à lire il y a quelque temps. Souvenez-vous de la porte-pièce du jugement sans appel sur le traître de Judas. Il disait cela à Saint Jean, non qu'il se mit en peine les pauvres, mais parce que, ayant la bourse, il volait ceux qu'on y mettait. Témoin de génie, esprit libre, dont l'observation, goût des couleurs et des formes, tout cela en Saint Jean, au service d'une adoration tendre et sagace du Maître. Il en fut ainsi de Jean Sire de Joinville, sénéchal de Champagne, pour le roi Saint-Louis. Il lui fut un témoin analogue, et son récit à belle saveur, et je vous le recommande, vous pouvez avoir dans la collection d'itinéraires du numéro 70 à 82 ou 3, tout le récit de Joinville, dans un très beau français, bien reconstitué, et c'est merveilleux. Son récit, oui, à belle saveur. Il est un observateur né et nullement un doctrinaire. C'est son charme. Sa vocation à lui aussi est d'être témoin. Témoin d'une liberté absolument remarquable, étonnante. Nous allons le voir dans quelques petits récits, le temps de t'en compter, de son beau chef-d'œuvre. Cette liberté de vocation est encore fortifiée chez Joinville par la liberté de l'artiste. Joinville chante l'objet de son admiration. Le roi, Saint-Louis. On sent à le lire que ce qu'il écrit en 1305, c'était comme gravé dans sa mémoire d'artiste, entrée imagée, vivant qu'il n'a eu qu'à transcrire tant il était doué pour voir et faire voir, tant il avait besoin de nous en faire part. Il y a dans son récit la double allégresse du témoignage et l'expression bien trouvée. Et quand on lit Joabine, on pense au procès de Sainte Jeanne d'Arc que vous pouvez lire dans cette belle introduction de Brasillac. Il n'y a pas de verbe, de force, d'expression, de témoignage comme celui que Jeanne d'Arc donne au cours de son procès. Et l'essence de cette liberté a sa source dans sa foi en la valeur absolue transcendante de la vérité. Il est gens, personnes que le mensonge ne tente pas. Il ne trouve goût qu'aucun. Il est d'une nature à dire droitement sa pensée. Alors jaillissait de sa plume une gaieté, une savoureuse moquerie, un besoin comique de rire de ce qui n'est pas tout droit, tout net, de ce qui est rentre et sans le sournois, le vaniteux et le surfait. Il serait le bienvenu dans ce siècle de mensonges. S'il est vrai de dire, comme nous l'avons dit plus haut, le livre de Joinville est l'évangile du royaume de France, alors il est bon de le méditer. Non point que je fasse de ce livre, bien sûr, un livre révélé et consacré comme tel par l'Église, bien sûr que non, mais il est sage de dire qu'il est la chronique du Saint-Évangile vécu. Parce que, à travers la vie de pauvres hommes, il nous livre la vie du roi, qui est vrai imitateur de la vie de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je parle de la chronique du Saint-Évangile vécu. Et de fait, puisque Jean de Joinville a donc vocation d'évangéliste, dire de Péguy, il lui restait de nous manifester comment Jésus est présent dans sa vie. Je vais réduire mon propos à contempler pour vous quelques exemples pris comme cela au cours d'une lecture de Joinville et méditer quelques récits d'eux surtout pour y trouver force, foi et amour de Dieu qui fleurit là dans le style en finesse, profondeur et pittoresque. Tout d'abord, je vous ai parlé de Saint-Louis et du sacrifice. Eh bien, voyons ce que l'on peut trouver sur ce thème dans l'œuvre de Joinville. Le prologue à l'œuvre de Joinville est sous le signe de la croix. Ce roi dont il va raconter les saintes paroles, les bons enseignements et les grandes chevaleries a trouvé toutes choses et la dernière victoire en toutes choses dans la croix. C'est la vie et la mort d'un martyr. Joinville le sait. Il a présent le pauvre Saint-Isaac, tourmenté et pourtant calme, sillonné de sueur, tiré de continuelles souffrances pour l'amour de Jésus-Christ seul. Et voilà ce qu'il dit merveilleusement. Vous trouverez écrit la belle fin qu'il fit. Et à ce sujet, me semble-t-il, qu'on ne lui en fit pas assez quand on ne le mit pas au nombre des martyrs pour les grandes peines qu'il souffrit au pèlerinage de la croix et parce que surtout, il imita notre Seigneur Jésus-Christ au fait de la croix. Voilà donc la solide inspiration, la base sans défaut, l'excellence, l'excellente doctrine du biographe. Louis de France fut saint, mais saint martyr. Témoin héroïque devant les infidèles. Je suis sûr de mon saint, car il a la marque. Je m'y connais, ce fut l'homme de la croix. Je sais ce que fut pour lui la constante passage, sa vie et pèlerinage de la croix. C'est l'expression de Jean. Dans sa vie et pèlerinage de la croix. Et si vous saviez comme moi ce qu'un croisé peut souffrir et comment, au-delà de tous, mon saint s'offrit à cette croix, vous devriez, vous diriez qu'on ne lui en a pas fait assez. Car si Dieu mourut en la croix, ainsi fit-il, car il était croisé et donc, pour ainsi dire, crucifié quand il mourut. Ce signe de la croix, ils veulent le voir encore dans le jour de la naissance même de Saint-Louis, qui fut le 25 avril, jour de Saint-Marc, où, dit-il, on porte des croix, et en France, des croix noires. Et on les porte et les plante dans les champs. Dans ma campagne, il est vrai, j'ai connu encore des paysans qui ne faisaient pas le premier labour avant d'avoir dit un pater devant une petite croix bénite de noisetier plantée au bord du champ. Ou encore, j'ai vu de mes yeux, je peux même dire encore le champ et le lieu, où le paysan plantait la croix dans le champ ensemencé. Sans doute, en souvenir de la phrase de Jésus, si le grain ne meurt en terre, il reste seul et ne porte pas de beaux fruits. Eh bien, dit le sénéchal, ce fut comme une prophétie de la grande foison de gens qui moururent en ces deux croisades, car maintes grandes heures en fut en ce monde et maintes grandes joies en paradis pour ceux qui, dans ces deux pèlerinages, moururent vrais croisés. Douceur candide et terrible de cette prophétie campagnarde au berceau du petit prédestiné, c'est la référence la plus simple, le signe infaillible. Notre Seigneur Jésus-Christ ne dit-il pas, la plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est de mettre pour eux son corps en aventure de mort. C'est une expression de Joinville, vous en goûterez la finesse. Mettre son corps en aventure de mort. Traduit solennellement Joinville. Pour marquer le sens absolu de cette vie, le chroniqueur ne craint pas de bousculer déjà le plan annoncé en proclamant tout de suite ces quatre fois où, rigoureux témoin, il vit et entendit le roi offrir à Dieu cette vie humaine de si grand prix pourtant, le roi de France. Ces quatre fois, le roi était libre. Son conseil lui de démontrer, même à force d'arguments, qu'il n'était plus que sage de dispenser de se jeter dans le péril. Un raisonnement humain qui semblait irréfutable, assuré de se conserver sans bien de ces gens. Et ces quatre fois, et combien d'autres, où il fut inspiré de compter pour rien la vie de son corps, le saint roi opposa à la sagesse humaine la folie de la croix. Avec une grande maîtrise, Joinville présente un raccourci des deux argumentations, celle du monde prudent qui dit au roi « gardez la vie », celle de la croix qui lui dit dans le fond de son cœur « risquez-la sans crainte ». La première fois, nous dit Joinville, c'était au débarquement de Dordagnette. On lui dit « laissez débarquer vos chevaliers, voyez comment s'engage la fête ». et s'ils sont toxiques, vous pourrez au moins reprendre la conquête. » La croix lui dit : « Donnez votre vie. Le roi doit être le premier. » Et dit merveilleusement Joinville, dans la phrase qui suit la promptitude d'âme et le corps du jeune saint roi, il ne voulut en croire personne, mais sauta à la mer, tout armé, l'épée au col, le glaive au roi, et fut des premiers repères, des premiers affaires. La deuxième fois, tel fut le raisonnement humain, c'était la terrible retraite sur Damiette, l'armée décimée, épuisée de maladie et de harcèlement. On lui dit : « Vous êtes malade à mourir, montez donc dans la galère, sauvez-vous, parce que vous êtes le roi, laissez vos gens se retirer comme ils pourront. » Et lui ne voulut en croire personne, mais il dit qu'il ne laisserait pas son peuple, mais qu'il ferait la même fin. Or, il était moribond de trois maladies, et se pâma plusieurs fois, nous dit Joinville. La troisième fois, c'est quand tout son conseil et ses frères étaient résolus à revenir en France, et que lui décida de rester en Acre, face aux Turcs, pour sauver le pauvre peuple. Et la quatrième fois, c'est quand il voulut rester dans la nef, dangereusement avarié, et y rester avec sa femme et ses enfants pour rassurer les 800 passagers qui se seraient perdus en Chypre si le roi avait changé de vaisseau. La hardiesse de ce dernier trait mérite une louange et une longue admiration. Mais en ces quatre circonstances, toute prévision humaine, toute réponse de probabilité aurait été grandement opposée à l'idée du roi, et cependant, c'est la croix qui a eu raison. Je n'y sais pas d'autre raison, dit sagement Joinville, que l'amour que Dieu portait au roi, car il est écrit : « Si tu crains Dieu, tout ce que tu verras te craindra. » L'absolu fait peur. C'est une réflexion de Joinville. L'absolu fait peur. L'amour que Dieu portait au roi mettait la peur au cœur de ses ennemis. Dans toutes ces épreuves, nous dit Joinville, c'est la croix qui a eu raison. C'est qu'il faut comprendre que Saint Louis fut le parfait imitateur de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix, sacrifice de soi, fut premier en l'âme sainte de Saint Louis, comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais n'est-il pas le parfait imitateur de notre Seigneur Jésus-Christ ? Rien, en effet, n'a pu détourner notre Seigneur Jésus-Christ de sa volonté d'accomplir sa mission, le sacrifice de sa vie par le sacrifice de la croix pour la rédemption de nos âmes. Saint Louis n'hésitait pas non plus à se sacrifier pour le salut de son peuple. Il méditait la vie de son maître. Et après avoir contemplé le disciple, Saint Louis, parfait disciple, contemplons le maître, le modèle, pour comprendre mieux la vie de Saint Louis. Comprenons qu'il y a dans l'âme du Christ comme un poids qui l'incline à la croix. Ainsi de Saint Louis, ainsi de tout âme bien-aimée. La révélation est formelle. Saint Paul a écrit dans l'Épître aux Hébreux : « Le Christ dit en entrant dans le monde : Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez formé un corps, me voici, je viens, ô mon Dieu, pour faire votre volonté. » Cet acte d'oblation de lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ l'a incessamment renouvelé au cours de sa vie. C'est ainsi qu'il marchait vers le but de sa mission rédemptrice. C'est ce même acte qu'il exprime à nouveau à Gethsémani en disant : « Mon Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, cependant que votre volonté soit faite, et non la guerre. Il y a ici l'angoisse de la croix toute proche et le désir efficace d'être pleinement fidèle à la mission de prêtre et de victime qu'il a assumée librement, et c'est ce désir qui l'emporte pour se réaliser dans le consummatum est. Cette soif ardente de notre salut pour la croix a été comme l'âme dit-je de l'apostolat de notre Seigneur Jésus-Christ. Des modernistes ont prétendu que l'idée de sacrifice de la croix était une invention du génie de saint Paul et qu'elle était étrangère à la prédication de Jésus. Allons donc. C'est à chaque instant qu'elle fut affirmée, cette croix, par notre Seigneur, non seulement sous la forme où elle nous est rapportée par saint Jean, mais sous les formes variées conservées dans les trois premiers évangélistes. C'est dans l'évangile selon saint Matthieu que Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rédemption de beaucoup. » Dans une des plus belles paraboles, Jésus dit « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent, comme mon Père me connaît, comme je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Il y aura une seule bergerie, un seul pasteur. C'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me la ravit, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et la même pensée revient toujours dans la prédication de Jésus. Je suis venu jeter le feu sur la terre, et que désirerais-je, sinon qu'il s'allume. Je dois encore être baptisé d'un baptême, et quelle angoisse en moi, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Il parlait du baptême de Jean, de sang, le plus parfait de tous. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Ce qu'il disait, ajoute saint Jean encore, pour marquer de quelle mort il devait mourir. Et lorsque Pierre, je le répéterai tout à l'heure en méditant rapidement un passage de Louis Charbon dans son œuvre merveilleuse que je vous conseille vivement, La Croix de Jésus-Christ, lorsque saint Pierre, ne pouvant porter l'annonce de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, prie à part notre Seigneur Jésus-Christ et se met à le reprendre en disant « À Dieu le plaît, Seigneur, cela ne vous arrivera pas », Jésus répond relativement violemment, alors que c'est l'homme de la paix, « Retiens-toi de moi, Satan, tu mets un scandale, car tu n'as pas l'intelligence des choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » De fait, les pensées humaines de Pierre, en cet instant, étaient contraires au mystère même de la rédemption et à toute l'économie de notre salut, du plan de salut venu accomplir, que Jésus est venu accomplir en cette terre. La pensée et le désir de la croix sont si fréquents chez notre Seigneur Jésus-Christ qu'il la présente à tous comme l'unique voie de salut. Saint Louis a certainement médité de telles paroles. Comme le rapporte saint Luc, s'adressant à tous, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. » Parole mystérieuse. De même, plus loin en salut, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et au fils de Zébédée, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je devais être baptisé? Oui, la grandeur, le désir qu'il avait d'accomplir sa mission de prêtre et de victime, c'est Garrigou Lagrange qui dit cela dans son livre La Croix de Jésus, la grandeur du désir qu'il avait d'accomplir sa mission de prêtre et de victime, Jésus l'exprima encore la veille de sa passion à la scène en instituant le sacrifice eucharistique qui s'identifiait en substance avec celui de la croix. Comme il est rapporté en salut, il dit alors « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir en pécoire patiale. » Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à la Pâque parfaite, célébrée dans le royaume de Dieu. Et prenant le pain, après avoir rendu grâce, il se le rompit, le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et de même pour la coupe, après le souper, disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. C'est au sortir de la scène, en allant au jardin de Gethsémani, que Jésus dit encore, le prince de ce monde vient et n'a rien à moi, mais afin que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis selon le commandement que mon Père m'a donné, levez-vous, partons. Comme le remarque saint Thomas d'Aquin, Jésus parle manifestement ainsi, selon l'inspiration de son Père qui le porte à vouloir mourir pour nous, par amour et par obéissance. Et un peu plus loin, il dit plus clairement encore, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et dans l'horizon sacerdotal, Père Saint, sanctifiez-les dans la vérité. Je me sacrifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi, selon, soient sanctifiés en vérité. C'est ce qui fait dire à Saint Jean, nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. C'est ce qui a inspiré la vie sacrifiée du croisé Louis. En d'autres termes, cet effet de la plénitude de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ doit se retrouver, selon une participation plus ou moins parfaite, dans les membres de son corps mystique, est-il pareil. Que nous voulions, de toute façon, il vaut mieux, je crois que c'est les verrues qui disent ça, il vaut mieux, oui, c'est ça que c'est dit. Il vaut mieux porter au Saint-Augustin, il vaut mieux porter volontairement la croix que de la reporter en rechignant. Elle est plus légère, elle se rapporte avec amour qu'avec contrainte. La croix et toutes ces circonstances douloureuses étaient ainsi comprises dans le degré de rédemption, consommation de l'œuvre de Christ et de sa destinée de prêtre et de victime. La sainte âme de Jésus, du fait qu'elle a été personnellement unie au Verbe et constituée telle de l'Église, a contracté l'obligation de satisfaire pour l'humanité. La tête doit reposer, doit réparer le désordre auquel les membres se sont livrés. La plénitude de grâce disposant Jésus au parfait accomplissement de sa mission et donc en lui comme un poids, c'est Michel qui dit ça, c'est lui, comme un poids qui l'incline vers la croix et la lui fait ardemment désirer pour notre salut. Et donc un petit fait historique évangélique magnifique et splendide. On pourrait multiplier les commentaires de Louis Charbon sur l'apparition de Élie et de Moïse au Tabor, où notre Seigneur Jésus-Christ est transfiguré dans sa gloire, et au lieu de parler, de se satisfaire de sa gloire, de quoi s'entretient-il avec Élie et Moïse? Il s'entretient de la passion qui doit venir. Ça montre le penchant, c'est la conclusion que Louis Charbon va tirer, ça montre qu'il y a un penchant de l'âme du Christ vers la croix pour accomplir le salut de notre âme. Voilà. Et alors, c'est magnifique dans son commentaire sur le dialogue entre Jésus et Saint-Pierre et Jésus et Judas. Notre Seigneur vient d'instituer Saint-Pierre, chef de l'Église, qui est Pierre sur cette pierre, le baptême dans l'Église, car il vient de professer au nom de tous ses amis, tous les disciples, qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et après, notre Seigneur Jésus-Christ parle de sa passion qui va venir, et Saint-Pierre dit, ah non, Seigneur, cela ne vous arrivera jamais. Et notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme le plus paisible, n'est-ce pas, qu'on a jamais connu, dit, ah bien, Satan, tu nous mets une occasion de scandale. Et alors que Judas, quelque part après, va venir à la tête de la cohorte saisir notre Seigneur Jésus-Christ pour le conduire au Sanhédrin et le conduire ensuite au gibet de la croix, et notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il traite Saint-Pierre de Judas, de Satan, notre Seigneur Jésus-Christ appelle Judas ami. Et Louis Charbon dit pourquoi cette différence. Parce que Judas lui ouvre le boulevard de la croix. Si vous permettez des instants, disons ce texte, mais je voudrais J'ai tellement lu ce texte qu'il est complètement en langue. Donc, attendez. Je retrouve la référence. Saint-Pierre 104. Voilà, c'est splendide. Donc Louis Chardon, c'est un dominicain du 17e, on retrouve le style de Corneille, de Racine, c'est splendide. 115. La conduite de Jésus envers son Saint-Pierre, le trait de Judas, le démon et Sodome, nous montre l'empire que l'attrait de la croix exerçait dans son âme. Rien n'a jamais pu lasser l'amour de Jésus quand il était sur la terre. Et en mille occasions, il a fait voir une patience qui ne pouvait appartenir qu'à Dieu. Cependant, cet amour devient inexorable quand quelque chose vient s'opposer au désir qu'il a de mourir dans les supplices de la croix. Nous voyons un exemple de cette disposition de Jésus, de sa conduite envers le chef des apôtres, en une circonstance que nous raconte l'Évangile. Un jour que Jésus s'entretenait avec ses disciples, il leur demandait ce que les hommes disaient de lui. Après que plusieurs eurent répondu à cette question de diverses manières, Saint-Pierre, prenant la parole au nom de tous, s'écria, plein de foi, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, dit l'évangéliste, Jésus défendit à ses disciples de publier ce qu'il venait d'entendre. Il prit l'occasion de là pour leur apprendre comment il fallait qu'il allât à Jérusalem afin de souffrir et d'y être mis à mort. Saint-Pierre, entendant ces paroles, est saisi d'horreur et voit le Fils de Dieu, le Fils d'une naissance éternelle, sera livré à des affreux supplices. La foi lui donne la confiance de protester. Et fort dans la révélation divine, il sourit lui-même, il ne peut comprendre un Dieu de gloire humilié jusqu'aux ignominies de la croix. Il ose donc représenter à son cher maître que les pensées qu'il nourrit sont indignes de sa condition, que ses dernières paroles sont de nature à baisser la grandeur de sa filiation incréée, qu'il oublierait l'honneur que l'on doit à son père et qu'il portait atteinte à l'opinion qu'il venait de faire naître dans l'esprit de tous ses disciples. Jésus se montre offensé de la censure précipitée de son apôtre. Et sans avoir égard à la toute-puissance de sa parole, qui vient d'établir cet apôtre, la pierre fondamentale de son Église, il fait violence à la douceur de son cœur. Il le regarde, non plus de ce regard conquérant qu'il avait il y a quelques mois entraîné sans hésitation à sa suite, mais avec un visage sur lequel se reflète le mécontentement de son âme contre l'État dans le dessein qui le presse d'accomplir sa plus vive inclination. Il l'écarte de sa présence. Il le nomme non seulement le sujet du scandale, mais il le compare à un démon, à Satan entre les démons. Et quoi, semble-t-il lui dire, faut-il que celui que j'ai choisi entre tous pour être le fondement inébranlable de mon Église soit une pierre de scandale à l'époux de cette Église? Que celui à qui j'ai donné les clés des cieux se serve tout de suite de sa prérogative contre mon service en me fermant les portes de la mort et les avenues de mes supplices? Je suis le détenteur de la puissance dans laquelle j'ai voulu qu'on reconnût Dieu lui-même devienne l'ennemi de mon amour et entreprenne d'imposer des contraintes à une inclination qui n'en saurait souffrir. Typique du 17e. Quand celui qui me parle ainsi serait un séraphin, je tiens entre mes mains la souveraineté qui peut l'abaisser autant qu'il a pu à ma volonté de l'élever. On mesurera alors la profondeur de sa chute à la hauteur où il était élevé, car rien ne serait prévaloir contre la toute-puissante inclination qui me porte à souffrir. On voit ça, on voit dans sa vie, n'est-ce pas, dans toute sa chevauchée de croisée. Les démons et Satan lui-même deviendraient mes alliés s'ils viennent procurer la mort, et mes meilleurs amis, je les considérerai comme des cruels et mortels ennemis s'ils se hasardaient tant soit peu à vouloir détourner ma pensée du souvenir de la croix. Fussent-ils plongés dans le sein de mon père pour y adorer ma naissance éternelle, je les en tirerai pour les précipiter loin de moi. C'est une interprétation merveilleuse de Richard. Et vous voyez, par contraste, l'attitude de Jésus avec Judas. C'est Judas qui fournit aux Juifs le moyen d'accomplir le détestable dessein pour l'exécution duquel ils avaient toujours jusque-là rencontré quelques obstacles. Et à cause de cela, Jésus lui accorde la plus grande faveur qu'une créature puisse recevoir sur la terre et au ciel. C'est beaucoup d'honneur pour les anges qu'on leur commande de l'adorer. Les saints apôtres se féliciteront d'avoir eu l'honneur de le voir de leurs yeux, au niveau du texte merveilleux de Saint Jean, son épître, de l'entendre de leurs oreilles et de le toucher de leur propre main. Saint Thomas, l'apôtre, se prévaudra d'avoir eu le privilège de mettre sa main dans la plaie de son côté. Jean, le disciple bien-aimé, rappellera souvent qu'il a eu la joie incomparable de reposer sur sa poitrine. L'autre Jean, le précurseur, avouera en tremblant que Jésus s'est incliné sous sa main lorsqu'il lui a plu, lui, pas de gloire, d'être baptisé. Madeleine se proclamera heureuse d'avoir baisé ses pieds divins. Glorieuse faveur, mais qui sont dépassées par celles que notre Seigneur Jésus-Christ accorde à Judas, puisqu'il lui permet de le baiser. Ce serait donc à Judas seul que Jésus aurait réservé le baiser de l'amitié. Ami, il a dit, et ce traître pourrait ainsi se prévaloir d'avoir reçu de lui un accueil qu'il n'a fait à personne. Et quoi donc? L'enfer se rira-t-il du ciel? Et le royaume de Bélial l'emportera-t-il sur celui de Dieu? Jésus estime à un si haut prix le bien de mourir. Jésus estime à un si haut prix le bien de mourir que Judas le procure. Quand lui se vérifie cette parole du Saint-Livre, quand l'homme aura donné tout ce qu'il possède pour ce qu'il aime, il se croira encore plus riche qu'il ne l'était auparavant. Ainsi Jésus peut-il être comparé à ce riche marchand de l'Évangile, etc. Quand Jésus consent à embrasser Judas, son amour est magnifique. Quand Jésus consent à embrasser Judas, son amour l'emporte sur la justice, son inclination à la croix triomphe de sa sagesse. Que de fois l'entourage du roi Louis a lui dit « Abandonnez la sagesse, c'est que vous reveniez en terre de France avec votre femme et vos enfants. » Son amour l'emporte sur la justice, son inclination à la croix triomphe de sa sagesse. Il aime mieux, on doute de sa prudence, que de sa fidélité. Il avait nommé Saint-Pierre Satan. Il avait repoussé loin de lui, il appelle Judas son ami, il souffre, il le craigne entre ses bras, comme avait fait le démon, souvenez-vous, et de plus, il lui permet de le baiser. Ô amour de la croix, plus fort que tout autre amour, et vraiment tiens. Donc, cette messe, c'est la dévotion parfaite du chrétien, le sacrifice de la messe. Et la dévotion parfaite du chrétien, du vrai chrétien qui comprend sa foi. Pourquoi? Parce que la messe en la messe se réalise, se résume les deux commandements fondamentaux que nous a laissés notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir d'aimer Dieu et notre prochain. En effet, la messe réalise dans la victime qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, parfait amour, c'est par amour de son Père que le Christ est mort, libre. Et c'est dans un parfait amour pour ses frères, comme tête du corps mystique dont nous sommes les membres, que notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux. résumé fondamental, essentiel de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu.